Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo, Thierry au micro. Bonjour.
Bonsoir.
À bonsoir. Claude à la technique, bien sûr, et c'est Gilles, toujours aux manettes avec vous, évidemment. Donc, ce soir, nous parlerons principalement, donc évidemment, des chiffres du chômage trimestriel par l'INSEE qui a fait une enquête emploi. Également la retraite, voilà, une conférence donc de Pierre Calfat sur la retraite, également l'emploi des seniors, puis nous parlerons également d'un jeune comique qui, une petite sur un jeune comique qui fait un one-man show sur Paris actuellement, qui est très incisif, très critique sur la politique sarkozienne, donc on entendra un petit peu ce qu'il parle un peu de l'actualité, voilà pour ce soir.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Très bien. Donc, cette émission commence avec, évidemment, comme d'habitude, en tout cas, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais on va recommencer avec les chiffres du chômage. Donc, au premier trimestre 2010, l'INSEE a fait une enquête trimestrielle sur les gens qui sont inscrits à l'emploi, donc à l'ANPE ou Pôle emploi. Donc, ça donne quoi exactement comme résultat, Ludo?
Oui, alors.
Apparemment, il y aurait 3 millions de chômeurs, mais ils en calculent que 2 700 000 à Paris.
C'est exactement ça. Alors, effectivement, en fait, c'est l'enquête annuelle. L'enquête emploi et dont les résultats sont publiés trimestriellement et c'est une enquête qui est à mettre en parallèle avec les chiffres de la NPE puisque l'enquête emploi permet de ne pas justement d'interroger les gens qui ne sont pas inscrits à la NPE contrairement aux chiffres de la DARES, donc de la NPE, qui ne prend en compte que les inscriptions administratives, c'est-à-dire les gens qui sont inscrits par définition au Pôle emploi. Donc les résultats sur les trois derniers mois, donc en janvier, février, mars, donc se montent à peu près à 2,7 millions de personnes en inactivité totale hein, et qui sont en recherche d'emploi, actives d'emploi sur le dernier mois et qui sont disponibles bien entendu. Ce qui représente à peu près 9,9% de la population active, donc ce qui permet au gouvernement de dire, de crier « Hourra, le taux de chômage n'a pas augmenté par rapport au trimestre précédent », ce qui, donc a priori, est vrai. Le seul petit hic, c'est que, et il faut aller bien chercher dans le site de l'INSEE pour trouver les chiffres en question, c'est que l'enquête emploi écarte... ceux qui sont en activité totale, qui sont en recherche d'emploi, mais qui n'ont pas fait de recherche dans le dernier mois.
D'accord. Hein,
dans les 4 dernières semaines, au moment de l'enquête. Et l'air de rien, en fait, ça représente 300 000 personnes. Donc, ce qui fait à peu près 1%. C'est énorme, ça fait 1% de la population active. Plus d'1% de la population active. Et donc, là, évidemment, si on les englobe dans les statistiques, ça donne un chiffre qui est pile de 3 millions de chômeurs. Voilà, donc qui est quand même plus proche de 11% en fait hein, de la population active, sachant que au total 3,4 millions de personnes ne travaillent pas, toujours selon l'enquête emploi, hein, mais souhaitent travailler, étant entendu tout compris, hein, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles ou pas, en recherche ou pas. C'est-à-dire que là on était à 3 millions, donc ce qu'on appelle le halo du chômage, les personnes donc qui ne sont pas en recherche active d'emploi, et il faut rajouter 400 000 qui eux ne sont pas disponibles pour des formations ou pour une autre raison, qui peut être une carte familiale, des choses comme ça. Donc ça fait voilà 3,4 millions de personnes qui ne travaillent pas en France mais qui souhaitent travailler selon les chiffres de l'INSEE. Et c'est à mettre en parallèle, évidemment, bien avec sûr. Les chiffres de la NPE. Et alors, du côté des chiffres de la NPE, là, on va vous parler des chiffres du mois d'avril. Donc ils sont sortis la semaine dernière et on n'en a pas parlé, c'est pour ça qu'on revient. Donc effectivement, en catégorie A, donc l'inactivité totale des personnes qui sont donc des personnes qui ne travaillent pas du tout et qui sont inscrites à la NPE, il faut compter 2 667 000 exactement personnes, ce qui bon, il y a une augmentation de 15 000 personnes. Donc voilà, voilà le gouvernement peut dire aussi que le chiffre du chômage n'augmente pas, sauf que en rajoutant la catégorie B et la catégorie C, la catégorie B c'est ceux qui travaillent de plus de 78 heures, moins de 78 heures pardon, et la catégorie C c'est ceux qui travaillent plus de 78 heures, donc le temps partiel, et bien là on tombe à 3 900 000 chômeurs au total, donc A, B, C catégorie confondue, donc près de 4 millions, hein, c'est énorme. Ça représente à peu près, donc on a dit 2 400 000 personnes. Et là, évidemment, toutes catégories confondues, le chômage a augmenté de 35 000 personnes, donc il a quand même augmenté, notamment dans la catégorie C, c'est-à-dire que le temps partiel en fait a augmenté en cette période de crise. Ce à quoi, eh bien, on pourrait parfaitement aussi ajouter au passage les catégories C et D. Les catégories C et D, c'est ceux qui sont inscrits à l'NPE mais qui ne sont pas en recherche active d'emploi, parce qu'ils sont en formation ou parce que ils sont dans un emploi précaire, enfin payé par l'État en fait, pardon. Enfin c'est un peu voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont dispensés de recherche active d'emploi parce qu'ils ont déjà un emploi type ces petits contrats. Et donc ça représente 500 000 personnes hein, en plus. Voilà, donc ce qui peut facilement porter le voilà, en tout cas le nombre d'inscrits à la NPE se monte lui à 4 500 000 à peu près.
D'accord. Merci Ludo. Alors pour faut dire que la semaine dernière, il y avait une conférence sur les retraites. Pierre Calfa décortique le rapport du COR hein, du Conseil d'orientation des retraites. Pour nous, dans un interview, donc, parce qu'il était sur place là-bas, et puis c'est Odile qui a fait l'interview là-bas. Donc on va l'écouter, ensuite on réagira.
Que dit le Conseil d'orientation des retraites avec ses nouvelles projections? Et il fait trois scénarios. Bon, et là je vais prendre simplement le scénario le plus défavorable. Parce que si on est capable de répondre au scénario le plus défavorable, après bon, on sera capable évidemment de répondre aux scénarios qui le sont moins. Bon. Donc, il prend un certain nombre d'hypothèses de départ qui sont, des gains de productivité annuels de 1,5% par an. C'est des taux de productivité qui sont plus faibles que les taux de productivité qu'on a pu connaître dans les 50 années précédentes. Et c'est assez juste de prendre des taux de productivité qui soient plus faibles. Parce que globalement, il y a une tendance lourde au ralentissement des gains de productivité au vu des modifications de l'organisation économique et de la structure économique du pays. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Bon. Donc c'est un peu faible, mais c'est assez raisonnable globalement. Ensuite, il prend une hypothèse d'un taux de chômage qui baisserait jusqu'en 2020 et qui se stabiliserait en 2020 à 7%. Jusqu'en 2050. C'est-à-dire un taux de chômage, malgré tout, relativement élevé. 7%, on va dire, ce sera un taux de chômage faible. Ah bon. Sur cette base-là, il indique qu'il faudrait, en 2050, bon, 3 points de PIB supplémentaires pour financer les retraites. C'est-à-dire que les retraites représentent aujourd'hui 13% du PIB. PIB étant la richesse produite. En 1950, pour que vous ayez une idée, les retraites, c'était 5% du PIB. Et les retraites payées à l'époque et tout le long des années 60 étaient des retraites de misère, puisqu'il a fallu attendre, en fait, le début des années 70, essentiellement l'après mai 68 et toutes les luttes qui ont eu lieu après mai 68 pour que des mesures importantes soient prises pour éradiquer la pauvreté parmi les retraités. Bon. Donc on est passé progressivement, et notamment après 68, c'est le vrai, au début des années 70, c'est la vraie rupture, puisque au début des années 70, la part des retraites dans le PIB était d'environ 7,5%. Et ensuite, c'est passé progressivement, bon, jusqu'à 13% aujourd'hui. Et donc, il faudrait, en fait, passer pour financer les retraites de 13% à 16% de PIB. Alors, qu'est-ce que j'entends pour financer les retraites ? Ça signifie une chose, ça signifie, c'est ça les hypothèses du corps, que d'une part, bon, on prend le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la pension et le dernier salaire, au niveau où il est aujourd'hui. Le niveau où il est aujourd'hui, c'est 72%. Il était, avant les réformes Balladur de 93, supérieur à 80% en moyenne. Il a baissé progressivement. Si rien n'est fait, si on ne prend aucune mesure, le taux de remplacement qui était de plus de 80% avant 93 baisserait progressivement pour être aux alentours de 59% en 2050. C'est-à-dire une baisse considérable du taux de remplacement. Donc le corps dit, voilà, on maintient le taux de remplacement à 72%. Ce qui est un taux qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas ridicule. 72%, bon, c'est quand même pas si mal, malgré tout. Bon, hein. Par contre, bon, il prend en compte l'allongement de la durée de cotisation qui a été faite, qui a été induite par les réformes de 93, les réformes de 2003 et ce qui s'en est suivi avec les mesures de 2008. C'est-à-dire 41,5 années de cotisation, de durée de cotisation en 2012, à partir de 2012. C'est ça les hypothèses du corps. Donc c'est pas, de ce point de vue-là, très satisfaisant pour nous, mais ça donne un cadre. Donc dans ce cadre-là, il faudrait 3 points de PIB supplémentaires. 3 points de PIB supplémentaires, ça correspond à 10,4 points de prélèvements supplémentaires pour financer l'ensemble des régimes de retraite. C'est-à-dire, l'ensemble des régimes de retraite, c'est les retraites des fonctionnaires, les régimes spéciaux, les retraites du secteur privé, la sécurité sociale et les retraites complémentaires à réagir, les retraites des agriculteurs, des artisans, j'en passe et des meilleurs, puisqu'il y a 35 régimes de retraite en France. Bon. Pour financer l'ensemble des systèmes de retraite, il faudrait 10,4, on peut dire, de cotisations supplémentaires, de prélèvements supplémentaires. Ce qui correspond à un lissage, si on prend un lissage sur 40 ans, à 0,26 points d'augmentation de cotisation par an. Globalement. 0,26 points d'augmentation de prélèvement ou de cotisation par an, c'est totalement dérisoire. Personne ne peut dire que ça va foutre en l'air l'économie française. C'est totalement dérisoire. C'est quelque chose qui peut se faire tout à fait progressivement. Bon, voilà. Donc, a priori, voilà, et si on regarde simplement, par exemple, si on prend le secteur privé, qui fait à la louche la moitié en masse financière des régimes de retraite, à peu près, je pense que ça doit faire ça. Donc, ça veut dire beaucoup moins que 0,26 points par an d'augmentation de cotisation, et notamment de cotisation patronale. Parce que pour nous, ce sont les cotisations patronales qui doivent augmenter. J'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Bon. Donc, on voit qu'il n'y a pas de drame du tout en la matière. Il y a absolument aucun drame. Et ce que dit le corps en plus, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'essentiel de la dégradation, de l'aggravation de la dégradation, vient non pas des problèmes démographiques, contrairement à ce que dit le gouvernement, mais est dû strictement à la crise économique. C'est-à-dire que l'essentiel de la dégradation financière des régimes de retraite, qui aujourd'hui, les régimes de retraite ont un déficit aujourd'hui de 30 milliards d'euros, est dû à la récession économique et a eu lieu entre 2008, 2009 et 2010. C'est-à-dire que c'est la crise qui est responsable avec la récession. Qui dit récession dit moins de cotisations sociales, moins d'activités, etc., etc. Bon. Et donc, évidemment, problème de rentrée financière sur les régimes. Et donc, on pourrait penser qu'une fois le problème de la crise traité, de façon spécifique, avec des ressources spécifiques, bon, il y aurait encore moins de problèmes pour l'avenir. Alors, comment financer les retraites ? On peut très vite, hein, il y a de multiples pistes. Bon, mais je vais les donner un peu dans le désordre. Premièrement, il y a aujourd'hui des possibilités d'avoir très rapidement des recettes nouvelles. Par exemple, les stocks options ne sont pas soumis à cotisation sociale. Ça fait 3 milliards d'euros en plus par an. Bon. L'intéressement et la participation ne sont pas non plus soumis à cotisation sociale. Hein, ça fait là aussi 3 millions d'euros supplémentaires. Bon. Le gouvernement ne rembourse pas toutes les exonérations de cotisation sociale dont le patronat profite. C'est là aussi 3 millions d'euros supplémentaires.
3 milliards,
donc je vois que vous suivez. 3 milliards. Voilà. 3 millions.
Vas-y, c'est parti, bande de chacals.
FPP part en live.
Part en live.
Le 11 et 12 juin, la radio FPP part en live.
Ligne 13.
93-200
à Saint-Denis.
FPP part en live.
Venez soutenir votre radio libre les 11 et 12 juin dès 15h en participant à nos émissions en public, en visitant notre buvette, nos stands associatifs et notre sonothèque des luttes.
Vendredi soir, concert punk rock avec notamment
Fatal Monstrum,
Parabellum,
Washington Dead Cats,
PKRK
et l'opération Kangourou au platine.
Que du beau monde, que du beau monde.
106.3.
Le samedi, soirée hip-hop reggae avec
Mathieu Ruben,
Nes Punta,
La Cara,
Pic et Gora,
University Crew
et les DJ
Dirty
Swift,
Esaü, Frey. Les après-midi sont en entrée libre. Concert à 19h. Entrée à 5€. Festival FPP à la ligne 13. 12 places de la Résistance à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Voilà. On verra.
Et vous, vous y serez ?
Et oui. FPP part en live, donc venez bien sûr nombreux le 11 et 12 juin soutenir les radios en lutte et les radios libres surtout. Très bien, alors on vient d'écouter donc Pierre Calfa qui me parlait, qui venait de décortiquer le corps. Donc j'ai quand même noté quelque chose du genre que on pensait qu'il y avait une idée reçue, surtout reçue par le gouvernement, hein, c'était que c'était la démographie qui était responsable du déficit des retraites, hein, entre autres. Or c'est la crise économique qui est dû principalement pour ce qui concerne les retraites, qui est dû entre 2008 et 2010. Donc cette période 2008-2010, c'est quand même sous Sarkozy que ça s'est produit. Hein, faut quand même le noter.
Pas de politique ici.
Pas de politique avec FPP. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ludo, de ce qu'a dit Pierre Calfa, les retraites, sur le fait que c'est pas la démographie qui est le signe de ce déficit, mais la crise économique, qui est d'ailleurs due aux banques, a priori, hein, aussi.
Bah, moi, je sais pas, j'ai un peu regardé les projections du corps. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais.
D'accord.
Non, mais bon, en fait, le problème vient de ce calcul sur la productivité. C'est-à-dire qu'on suppose. Bon, c'est un calcul vraiment très compliqué, hein, mais c'est bien parce que ça embrouille tout le monde. En fait, on suppose qu'on dégage plus de richesses et que comme on dégage plus de richesses. Qu'on contribue à mieux financer les retraites, en fait. Grosso modo. Donc effectivement, en fait, la crise a introduit une chute de productivité dans une chute de productivité générale, hein, au niveau de l'économie française. Et donc
ça
se traduit concrètement, c'est le chômage en fait, hein, par une augmentation du chômage, par une baisse du chiffre d'affaires et effectivement, par un déficit accru du régime général des retraites, de tous les régimes des retraites confondus. Alors en fait, le problème, comme le dit très bien Pierre Calfa, c'est que depuis, on va dire, au moins 10 ans, voire plus, les cotisations qui servent à financer la retraite, donc les cotisations patronales et salariales, n'ont pas augmenté. Elles sont restées complètement bloquées au nom de la compétitivité des entreprises françaises, de la lutte contre le chômage, etc., etc. Et du coup, ça condamne en fait le gouvernement ou toute personne qui voudrait réformer le système des retraites en fait à reporter l'effort sur les salariés en effectivement en allongeant la durée de cotisation ou en baissant en augmentant la durée de cotisation, donc 41, 42, 43 ans, quand on est parti, en augmentant l'âge de la retraite ou en baissant directement les pensions. Voilà. Et en fait, augmenter la durée de départ, repousser la durée de départ de l'âge à la retraite ou augmenter le nombre d'annuités, enfin le nombre d'années qu'il faut pour cotiser, ça revient mécaniquement de toute façon à baisser les pensions. Donc on voit bien que la logique du gouvernement, c'est clairement de faire reporter l'effort sur les salariés. Tout le monde l'a bien compris. Et donc ce qui était intéressant là, c'est qu'effectivement, après tout, on peut parfaitement chiffrer ce que coûterait en termes de cotisation patronale et salariale le fait de compenser le déficit des caisses d'assurance vieillesse. Hein. On pourrait aussi imaginez, comme il le dit aussi, qu'il y a d'autres sources de financement. Ça, c'est pas du tout impossible. Hein. L'État pourrait compenser par un autre impôt. Donc là, effectivement, sur à peu près 40 ans, d'après les propres projections du COR, il suffirait d'augmenter les cotisations patronales ou salariales de 0,24% par an pour aboutir à compenser le régime des retraites.
Excusez-moi, je crois qu'on a quelqu'un au bout du fil.
Bonsoir
Joël.
Bonsoir Joël.
Donc, comment vas-tu ?
Bien, ça va.
Bon.
Ouais. Je vais me placer. C'est pas naïve question de philosophie, mais je vais me placer sur un côté un peu que philosophique de la question. Moi, je l'avais déjà exprimé, je crois, mais ce qui me gêne beaucoup dans ces histoires de retraite, c'est de punir les gens parce qu'ils vont vivre plus longtemps, paraît-il. Et moi, je trouve ça insupportable. Insupportable parce que on nie complètement que chaque être humain de l'un à l'autre est complètement différent, quoi. Et qu'aujourd'hui on dit vous avez vu, les chiffres disent les gens vivent plus longtemps aujourd'hui. Et d'ailleurs il faudrait déjà voir tous les métiers, parce que pour tous les métiers c'est pas forcément vrai déjà.
Oui, c'est ça, hein, la réforme est très inégalitaire pour tous les métiers
du
bâtiment.
C'est à dire de dire vous vivez plus vieux, donc c'est sanction, quoi. Vous allez devoir travailler plus longtemps, vous vivez plus vieux. Donc déjà toutes les solutions effectivement n'ont pas été cherchées, parce que vous l'avez signalé, il y a déjà quelques pistes, mais apparemment visiblement on voit bien pourquoi l'État ne veut pas entendre parler de celle-ci, c'est-à-dire qu'il faudra faire payer ceux qui travaillent ou ceux qui ont en retraite, parce que il faut quand même aussi dire qu'aujourd'hui les gens qui sont en retraite, ils ont des retraites de misère la plupart, hein.
Bien sûr.
C'est pas
le problème de faire payer le capital, c'est que ils seraient obligés, ceux qui nous gouvernent, de mettre la main à la poche, quoi.
Voilà, tout à fait. Ça, apparemment ils veulent pas en entendre parler. Et il y a quand même l'histoire du corps. Moi j'étais faire un tour sur internet et j'ai vu déjà, il y a 39 personnes qui composent ce fameux corps. Hein,
ouais.
Parce que une fois de plus, les médias dominants ne disent pas ce que c'est le corps, parce qu'effectivement c'est trois signes, mais qui le compose ? Et on a des gens d'un peu partout qui composent ce corps, notamment des gens qui viennent de fronts libéraux. Il y a même des syndicalistes.
Ah, tous les syndicats sont représentés.
Voilà, qui constituent ce corps. Donc ça doit être intéressant, je dirais. D'un côté, il manifeste contre la réforme des retraites, et de l'autre, effectivement, ils sont dans ce fameux corps. Donc ça doit être assez intéressant, les échanges qui peut se faire. Non, une fois de plus, on ne dit pas à chaque fois qu'est-ce qui compose ces fameux groupes, quoi. Ça me fait penser comme l'Institut Montaigne. On te dit jamais qui sont derrière ces groupes.
C'est juste.
Bon, en l'occurrence,
si
je peux me permettre, Joël, parce que moi aussi, nous aussi, on a été regardé sur le site du corps pour voir la composition.
Ouais.
D'abord, l'origine est tout à fait mentionnée. Et alors là, pour le coup, effectivement, comme tu le dis, il y a tous les syndicats.
Ouais.
Il y a au moins deux personnes de chaque syndicat de salariés. Il y a aussi des syndicats patronaux.
Ouais.
Il y a des gens, des inspecteurs des finances, des gens de l'INSEE. Enfin, il y a vraiment. Au moins, on peut pas dire que c'est pas un organisme gouvernemental. C'est pas tout à fait comme l'Institut Montaigne, qui est un truc qui est totalement privé et qui sort de je sais pas où, hein,
ouais.
Et qui fait des recommandations sur commande et sur lobby. Au moins, hein, je veux dire, on peut dire ça. Alors après, il est bien évident qu'un inspecteur général des finances, il a pas une vue, c'est pas la vue du syndicaliste de base, quoi. Ça, c'est sûr.
Mais en même temps, c'est toute la contradiction du truc, parce qu'à un côté, on a soi-disant, enfin, ils font semblant, je dirais, direction syndicale, de manifester contre la réforme des retraites, et dedans, ils sont dedans aussi. C'est-à-dire qu'ils vont négocier l'allongement de la retraite, parce qu'ils sont dans ce même discours, en fin de compte, c'est de dire, effectivement, les gens ont vécu plus longtemps, machin, etc. C'est-à-dire que le mardi, Le mardi, on fait défiler tout le monde contre la réforme des retraites. Et le mercredi, dans le corps, on dit ah ben non, il faut allonger le.
Alors, si je peux me permettre.
C'est schizophrénique, quoi, le truc, dirais-je.
Si je suis d'accord. Mais si je peux me permettre, à la limite, le rapport du corps, il est ce qu'il est, mais c'est plutôt les solutions qui sont envisagées,
oui.
C'est-à-dire l'augmentation des charges patronales, ou le même, je crois que la Cour, la Cour des comptes, qui à un moment, pour financer les retraites, préconisait la taxation des stock options. Et de tout l'intéressement. Bon, la Cour des comptes, c'est pas un truc ultra révolutionnaire. Donc, je veux dire, tu vois, il y a peut-être une différence entre le diagnostic et puis les solutions qui sont, me semble-t-il, à imposer.
Mais ouais. Joël, tu crois pas que aussi si on faisait une loi mondiale en disant, si vous voulez avoir un patron qui veut partir dans un autre pays, il arrive dans le pays, on lui dit, monsieur, vous avez payé vos charges sociales dans votre pays d'où vous venez. Si vous n'avez pas payé, on ne vous veut pas chez nous.
Oui. Ça, c'est une super idée.
Ça serait remettre de l'argent un peu dans les caisses aussi.
Merci, Étienne.
Oui, non, mais ça, il y a d'autres solutions, mais visiblement, ce n'est pas vers ces solutions-là qui se tendent. Hein. Ça va être les gens qui travaillent ou qui vont aller en retraite qui vont payer la note, quoi.
Oui, c'est sûr, Joël.
Ouais.
Excuse-moi, je vais être obligé de te couper parce qu'on a d'autres
trucs
sonores, donc. Merci de ton appel. Hein.
Eh bien, bonne soirée à vous.
Toi aussi. Donc, effectivement, la piste principale, ce serait effectivement de demander à ceux qui ont de l'argent de payer un peu plus pour les retraites. Hein.
Pour le moment, oui. De toute façon, on y vient.
On y vient.
Faut pas croire que...
Alors, justement, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on parle des retraites, mais en même temps, on demande aux gens de travailler plus, mais on n'embauche pas les vieux, les gens âgés.
Eh bien, oui, tu fais...
Alors, que dit Wauquiez par rapport à tout ça?
Bon, alors, d'abord, moi, je suis allé chercher donc sur le site de l'INSEE le taux d'emploi des seniors. Donc, effectivement, le taux d'emploi des seniors de 50 à 64 ans, donc 64 ans, âge limite de âge de la retraite, donc légal. Donc, c'est à peu près de 55%. Donc, une personne sur deux dans cette tranche d'âge travaille, ce qui est évidemment très en dessous des espérances. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on arrive à l'âge de 55 ans, donc de 55 à 64, là, le taux d'emploi n'est plus que de 41%.
D'accord. 41%,
sachant qu'il y en a 33 qui sont à temps plein, 10% qui sont à temps partiel. Et pareil, dans la tranche 50-64 ans, il y en a 45% qui sont à temps plein et 10% qui sont à temps partiel. Donc ça donne une petite idée quand même de la débâcle.
Okay.
Alors,
ouais.
ce qui fait que d'après cette statistique, on peut calculer l'espérance de vie, j'allais dire, d'employabilité, en fait, d'un senior. Et donc, l'espérance d'activité des 50-64 ans, c'est 8,8 années.
Oui.
Et dès qu'on passe, on tombe aux 55-64 ans, elle diminue de moitié, donc c'est 4,4 ans. Donc vous avez 50 ans, vous avez un âge moyen de durée d'activité de 8 ans. Vous n'arrivez pas à 65, hein, c'est pas la peine de rêver.
50,
et à partir de 55, vous avez 4 ans. Donc ce qui veut dire que, grosso contre, cette idée de repousser l'âge légal de la retraite, c'est tout simplement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus vous approchez des 60 ans et plus vous avez toutes les chances de dégager du truc. Alors là-dessus, Wauquiez, qu'on aime bien, hein, cette émission, non, parce qu'il est jeune et puis
dynamique,
c'est un brillant
jeune,
porte-parole, tout ça, et puis surtout il est capable de faire avaler un peu tout et n'importe quoi, puisqu'il a Le Parisien a publié une interview de lui qui est excellemment titré « Les seniors coûtent trop cher ». Et en fait, on voit quand même toute l'opération de propagande qui consiste à renverser le problème en disant « Oh mais c'est pas grave, on va repousser l'âge de la retraite hein, à 62-63 ans. Bah, il suffit d'augmenter le taux d'activité des seniors ». Sauf que, effectivement, c'est la quatrième mesure en fait qui sont prises dans ce sens-là, et ça n'a jamais mordu en fait. Hein, les entreprises ne mordent pas. Alors, dans son entretien, il est même capable de faire porter la responsabilité de la baisse du taux d'activité donc des seniors sur les gouvernements socialistes précédents de Martine Aubry, en disant, vous rendez-vous compte, c'est scandaleux, parce que via le système des pré-retraites, Martine Aubry a fait sortir 100 000 personnes par an. Alors, vous imaginez bien que les pré-retraites, c'est les entreprises qui veulent plus de ces seniors et qui utilisent les dispositifs de l'État, et que l'État vient à la rescousse, en fait, hein, des gens qui sont virés sèchement. Donc, il parle de ségrégation et de discrimination via ces dispositifs de pré-retraite. Alors, les pré-retraités, ils apprécieront, parce qu'à mon avis, ils étaient plutôt contents de partir avant la fin de partir avant l'âge de la retraite. Et puis, ils rajoutent à ça, et puis une autre ségrégation scandaleuse, c'est la dispense légale de la dispense de recherche d'emploi de la NPE. Ça, c'est une discrimination inadmissible. Ça fait sortir artificiellement les gens de des statistiques du chômage. Pas de politique. Mais là, quand même, bon, et voilà. Et donc, les grandes mesures du gouvernement, je suis un peu de mauvaise foi parce qu'il y en a d'autres, mais voilà, ça va être de supprimer la dispense de recherche d'emploi. Et sachant que c'est une grande avancée pour les recherches. Alors plus pour aller financer leurs retraites. Alors plus sérieusement, ce monsieur propose à nouveau de faire quoi en fait, d'exonérer de charges sociales toute entreprise qui emploie un senior et de l'exonérer en plus, c'est-à-dire finalement d'arriver à zéro charge. C'est ce qu'il écrit. Donc zéro charge, donc de cumuler à la fois les baisses de charges qui sont sur les bas salaires, parce que faut pas imaginer, quand on va rembaucher quelqu'un à 55 ans, on risque de le rembaucher au SMIC. Donc de cumuler les baisses de charges, plus d'en rajouter encore, sachant qu'en fait, depuis des années qu'on pratique cette baisse de charges, ces baisses de charges consécutives, on n'a jamais réussi à mesurer l'efficacité sur l'emploi, en fait. La seule chose qu'on a réussi à mesurer, c'est quand on exonère des heures supplémentaires. Là, on est sûr que les heures supplémentaires sont utilisées et que, pour le coup, ça crée pas d'emploi, quoi. Donc voilà. Et là, et puis la deuxième mesure phare, c'est repousser l'âge légal de départ à la retraite, parce que là, l'Europe le prouve, les autres pays européens le prouvent. À partir du moment où on repousse l'âge légal de la retraite, le taux d'activité des seniors augmente de 10%. Bien sûr, c'est une évidence. Et donc le truc qui se mord la queue. Alors bon, c'est très sympa, mais alors après, oui, effectivement, il y a des mesures de tutorat, tout ça, mais on a pas l'impression que comme solution au problème des retraites, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
On aura l'occasion d'en reparler. Je vous propose d'écouter une petite chanson et d'écouter également l'intermittent du spectacle, donc Manuel Pratt.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas. Ce macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.
Bonjour Emmanuel Pratt, tu es comédien actuellement au Funambule, tu présentes un spectacle.
Oui, enfin le meilleur du pire, c'est une sorte de best-of des horribles spectacles que j'ai pu écrire depuis 20 ans à peu près. Donc les lundis et le mardi à 21h30 au Funambule. L'actualité est toujours très riche et puis est assez sordide hein, quand on voit ce qui s'est passé sur la Turquie avec Israël, parce que bon, ça y est, on sait maintenant, ça y est, le monde va péter. Hein, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'un navire qui transportait des fauteuils roulants, peut-être que pour Israël, c'est vachement dangereux, parce qu'un mec qui est handicapé peut écraser un Israélien. On peut comprendre que c'est un cargo dangereux. On l'apprend grâce à Israël, le fauteuil roulant est une arme subversive et dangereuse. Un Magnum 357, donc c'est bien. Donc je suis pour, il devrait y avoir encore plus d'attentats affrétés contre les gens qui veulent nourrir les autres. Je trouve que c'est bien, c'est la société est vraiment débile, mais bon, c'est la vie, quoi.
Alors justement, t'es un comique, enfin un comique dans le sens noble du terme, on va dire. Comment un homme qui fait de la scène et qui rit un peu de tout avec un peu tout le monde, comment il réagit sur le monde? Est-ce qu'il s'en sert automatiquement pour ses spectacles, ou alors il fait des choix très particuliers pour justement ne pas trop choquer les gens dans les salles?
Non, je pratique ni l'autocensure ni l'automutilation dans le domaine de la scène. Je pense qu'on peut rire de tout, pas avec n'importe qui, hein, parce que des fois je prends des gros stalls, des gros bides. Non, je crois que il y a deux types, trois sortes de gens. Il y a ceux qui subissent, il y a ceux qui martyrisent, et puis il y a ceux qui disent d'une manière quelle qu'elle soit, que ça soit en spectacle vivant, que ça soit aussi en lutte, tout simplement en survie. Je pense que la marginalisation, elle n'est pas qu'artistique d'ailleurs, parce que de toutes les manières, je pense que les artistes ne sont vraiment pas des marginaux, ou très rarement, quoi. Parce que dès l'instant où on passe au niveau des médias, très souvent il y a une propre autocensure qui fait que de toute façon des vrais rebelles, des vrais rebelles connus, j'en connais pas. En tout cas parce qu'ils peuvent pas être médiatisés, quoi. En tout cas, ils passeront certainement pas en télé, sur TF1 ou sur Radio, enfin Télé Sarco, ou sur Europe 1, c'est Radio Sarco, quoi. Donc voilà, moi je par un principe que j'ai 50 balais, j'ai plus rien à perdre. J'ai jamais eu rien à perdre d'ailleurs. C'est un exutoire, la scène. J'arrive sur scène, j'ai envie de dire ce que je dis avec Parler de mes terreurs, parler du racisme, parler de l'exclusion, parler de la connerie qui est un foulard intégriste, parler justement de des femmes qui se font vitrioler la gueule parce que bon, les connes qui disent moi je suis pour le voile, bon bah c'est, on les laisse dehors et on les laisse parler alors qu'une vraie nana qui porte le voile, on lui fait fermer sa gueule parce qu'elle peut pas aller dehors. Donc là déjà il y a une manipulation. Je crois qu'il faut lutter contre toutes les manipulations. Mais je suis pas porte-drapeau au moins. Moi je dis ça. Après bon, les gens ils viennent au spectacle, ils aiment. C'est génial, ils aiment pas. Tant pis, je crois qu'il en faut pour tous les goûts, quoi. Mais je fais pas de concession par rapport à ce que je fais, quoi. Aucune.
Ton démarrage dans la vie de comédien, j'imagine, comme notre émission, c'est une émission sur le chômage et la précarité, j'imagine que t'as eu aussi tes années de vache maigre.
Oui, bah, continue, hein. Moi, je suis intermittent, quoi. Mais intermittent, c'est un statut, c'est pas un métier. Oui, parce que déjà, dès l'instant où, moi, à la base, j'étais éduque, hein, j'ai tout planté pour ce métier, c'est vrai que, voilà, je crois qu'il faut, c'est un métier où il faut énormément travailler, c'est aussi un métier de rencontre, c'est un métier de chance, c'est un métier où, comme n'importe qui, il y a une échéance mensuelle, moi, j'ai des gosses, je suis seul à les élever, il y a un mur, qu'on repousse, et ce mur, c'est le mur des contrats. C'est-à-dire que tu dis, tiens, j'ai un contrat jusqu'au mois de juin. Bon, génial, je vais pouvoir bouffer jusqu'au mois de juin. Après, bon, c'était une grosse rentrée d'argent, enfin une grosse, faut quand même pas déconner. Bah, tu dis que bah, peut-être qu'au mois de juillet et août, tu vas perdre de l'argent. En tout cas, tu vas pas en gagner. Donc, c'est une gestion de fric, c'est une gestion de temps. Mais je pense que voilà, c'est une précarité, mais une précarité de toutes les manières. Avant, on disait, ce métier est un métier de vache maigre. Mais je connais absolument aucun métier maintenant qui n'est pas un métier de vache maigre. Je pense que des gens, une nana comme une instite qui gagne 1000 euros par mois, un mec qui travaille à la caisse à Franprix, qui va gagner 1000 euros par mois et qui se fera en plus manipuler, engueuler par un patron de merde parce qu'il aura un poste un petit peu plus suffisant. Puis l'autre, le pauvre mec, il a des gamins élevés, il fermera sa gueule parce qu'il pourra pas l'être aussi, il pourra pas faire autrement. Il est dans la même précarité que moi. Le gros problème, c'est que, et c'est une des raisons pour lesquelles maintenant voter, moi, m'emmerde véritablement, même si je le fais parce que c'est un devoir civique, mais maintenant je me pose des sacrés doutes, même si maintenant on sait très bien que il n'y a aucun véritablement parti de gens qui en ont vraiment chié, de gens qui viennent du peuple. Et c'est ça qui est très dangereux parce que ça réconforte les extrêmes. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, ce soit un mec de gauche qui sache vraiment le prix du pain, qui sache vraiment le prix du ticket de métro, qui connaisse vraiment ce que c'est qu'une fin de mois difficile. C'est pas comme un mec comme DSK ou une nana comme Sego qui peut dire, ah oui, travailleur, c'est bien, ça va être dur, mais on va gagner. On va gagner. Ton DSK, il a des châteaux. DSK, il est multimillionnaire. Tant mieux pour sa gueule. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de la solitude d'un mec qui prend le métro tous les jours pour essayer de trouver du boulot? On lui dit ou vous êtes trop vieux, ou vous n'êtes pas assez diplômé, ou vous êtes trop gros, ou vous êtes ceci, ou vous êtes cela. On l'envoie de diplôme, on l'envoie, si le mec n'a pas de diplôme, il est foutu. On l'envoie en entretien, on le fait passer pour un con et après on le jette. Ces mecs-là ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre, je crois qu'on est dans une injustice. Et je trouve que c'est vrai que le français est hyper gentil. Je pense que quand on voit les gens qui sont RSA, etc., quand on voit les gens qui font la manche dans la rue, je me dis que ces gens sont hyper gentils. Parce que je pense que dans une situation extrême, c'est quand même un coup de bol que ces gens-là, ils se réunissent pas, ils prennent une armurerie et puis ils se mettent à braquer. Voilà, moi je trouve que le français est un, je crois qu'il y a un moment où t'es tellement écrasé dans un état de précarité, t'as même plus la volonté de te révolter. Parce que c'est une question de survie. Quand t'es en survie, tu penses qu'à bouffer. Et ce qui est tout à fait logique, hein. Primum vivare, hein, d'abord bouffer, hein. Et puis après, bon, bah, après, les mois passent, et puis, et à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle loi qui va niquer le peuple, elle va passer au moment de l'été où c'est le seul moment où le mec peut essayer de se détendre, etc. Et à la rentrée, il en prend plein sa gueule. Je sais pas jusqu'à quand ça peut durer. Mais voilà, donc l'intermittence, oui, c'est une situation difficile. Et puis bon, maintenant, je pense qu'on est dans une époque où il y a deux mondes. Il y a un monde bling-bling, une société bling-bling, avec la bande à Sarko, avec tout ce qui vient de la bande à Sarko, c'est-à-dire la culture à la Yad Elmaleh, à la Jean-Pierre Foucault, à la Patrick Sabatier, et toute cette culture du Festival de Cannes qui dépense des millions et des millions pour voir un milliardaire qui joue au cinéma un rôle de RMiste et les gens l'applaudissent. Moi, je dis aux gens, bah, révoltez-vous, putain. Allez pas à Cannes, ou alors allez à Cannes et pissez sur le tapis rouge, quoi. Voilà.
Voilà. Donc, c'était Emmanuel Prat. Donc, il fait un one-man show donc, au 53 rue des Saules, dans le 18e à Paris. Ça s'appelle Le Funambule. C'est un petit théâtre. C'est à 21h30 le lundi et le mardi. Et c'est 3 euros. Donc, c'est pas très cher. Plus le chapeau, bien sûr. Jusqu'au 22 juin. Alors, pour savoir pour le programme funambule-montmartre.com ou alors le site de Manuel Prat, www.manuelprat.net. Très bien, donc on en reparlera tout à l'heure aussi. Donc maintenant, Ludo et puis Thierry, on va essayer de parler un petit peu du RSA, puisqu'a priori, aujourd'hui, c'est les... on va fêter la première année du RSA, qui est un succès phénoménal, a priori.
Oui, alors c'est pas aujourd'hui, c'était la semaine mercredi, c'était mercredi en fait.
Mercredi, hein, pardon,
voilà, ouais. qui l'année. En fait, donc bon anniversaire.
Bon anniversaire, le RSA,
monsieur le RMiste qui est passé au RSA, bon anniversaire à vous. Alors, est-ce que c'est une réussite? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde, même les grands journaux, sont d'accord pour dire que pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas eu le succès attendu. Puisqu'en fait le RSA était principalement fait pour les gens qui étaient précaires, enfin qui étaient à temps partiel et dont on allait royalement accorder 100 euros de plus pour qu'ils aient un revenu à peu près décent. C'est une moyenne bien sûr, hein. Mais voilà, donc on comptait que sortir de la pauvreté à peu près un peu moins d'un million de personnes, c'est-à-dire quand on dit sortir de la pauvreté, c'est qu'ils arrivent à gagner plus de 900 euros par mois. Voilà. Surprise, en fait, en comptant seulement les personnes qui bénéficient donc de cette aide supplémentaire en travaillant, donc c'est-à-dire qui ne profitent pas du RSA socle, c'est-à-dire l'ancien RMI, on a que 615 000 personnes, soit la moitié moins que ce qui avait été prévu au départ. Et donc tout le monde se gratte la tête en disant mais comment ça se fait, c'est quand même un peu bizarre. Quand le RMI a été mis en place, ça a eu un super succès. Tu parles, il y avait tellement de pauvreté que ça a bien révélé que les gens avaient vraiment besoin de quelque chose. Et alors on s'est dit deux choses en fait. Hein. Les grosses têtes là-haut se disent bah ouais, c'est vrai qu'on a été un peu fort dans le contrôle social, c'est-à-dire via le questionnaire que les RSAstes devaient remplir pour toucher misérablement 100 euros ou parfois 20 hein, ou parfois 30. C'était tellement les questions étaient tellement intrusives que les gars ont dit à ce compte-là, je préfère encore mon passé, tu vois. Et oui, parce qu'on avec ça, on était capable de vous demander votre patrimoine, vos comptes bancaires, votre chaîne IFI, si vos parents vous donnaient de l'argent, etc., etc. Et en plus, il y a un contrôle régulier hein, de ce que vous touchez. Régulièrement, vous devez remplir en plus de votre feuille d'impôt tous les trois mois une fiche pour préciser ce que vous gagnez. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah moi, je suis d'accord, je suis travailleur à temps partiel, mais j'ai ma dignité, monsieur, ouais. Et je ne suis pas pauvre. Donc du coup, il y a eu cet échec. Hein, voilà. Il y a aussi des choses dont on parle moins, qui sont que le RSA n'est pas si avantageux que ça.
On en reparlera bien sûr.
On en a déjà beaucoup parlé à cette émission. Et puis une troisième chose, c'est la crise. Ouais. Et il s'est passé un truc très simple, c'est qu'au moment de la création du RSA, on avait dit, les gens, Ben Affremé avait dit, mais le problème, c'est pas de donner un peu plus aux gens qui sont à temps partiel, c'est d'abord de trouver du travail. Hein, pour les RMistes, d'abord d'aller trouver même des travaux à temps partiel, c'est l'emploi qui pose problème. Et la crise arrive là-dessus, et ben là vous imaginez qu'en fait le nombre de RSAST socle, c'est-à-dire de RMistes, a augmenté dans des proportions très importantes, et l'efficacité du RSA laisse à désirer. Donc cela dit, Martin Hirsch a pondu un bouquin.
Oui.
Je vous le conseille de vous le procurer, histoire de rigoler beaucoup sur ses bonnes intentions.
Merci Ludo. Alors très très vite Thierry, tu as participé donc au procès de deux potes de Joli Môme.
Non, c'est un pote de Joli Môme et un qui avait un site.
D'accord. Alors ça donne quoi ce procès? Alors
ce procès était assez hilarant parce que Plaza qui a démontré que les chômeurs ou les intermittents ont le droit d'aller voir leur syndicat ou n'importe quel syndicat et d'aller discuter avec eux, que de toute façon c'est un droit et on a droit de le faire. Et de là, moi ce que je trouve bien, c'est que l'avocat adverse, il s'est planté en parlant du chômage. En disant que...
C'est quoi la peine? Ils ont été condamnés ils ont...
Non, il n'y a rien du tout pour le moment.
D'accord.
Il y aura le verdict le 17 septembre.
Donc on en reparlera.
On en reparlera le 17 septembre. Mais ce qui était hilarant, c'est que l'avocat adverse, il a pas pu dire que... Ouais, mais un intermittent, c'est pas un travailleur. Il cherche que le chômage. Mais il a dit plein de conneries. Moi, je trouve ça
c'était
bien.
L'avocat de la CFDT, il faut
oui,
préciser.
Oui.
Très juste. Merci.
Mais
merci.
Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a eu plein de soutien. On a eu les Contis.
Oui.
On a eu la Stegma, les CFDT, qui compte la CFDT. Et il y a eu deux, trois autres entreprises qui sont venues soutenir quand même.
D'accord.
Et il faut préciser que c'était pour une occupation illégale.
Illégale, tout à
voilà,
fait.
Enfin, une grève, en fait.
Donc, je rappelle, juste avant de vous laisser avec le son, la chanson, et puis Hugo Pratt par la suite, juste un rappel. Donc, appel à la grève le 8 juin contre les suppressions de postes, bien sûr. Et le 24 juin, une journée de mobilisation intersyndicale. Le 24 juin, donc, 2010, bien sûr. Je vous dis à bientôt.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas, soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul moyen d'entendre ceci, c'est de le voir sur scène. Des rebelles au funambule, une programmation drôle et engagée. Interview.
Bah justement, tu parlais de Cannes, mais il y a également Avignon, qui est quand même une plaque tournante un petit peu de tout ce qui se fait en théâtre, en tout cas, et café-théâtre. Qu'est-ce que tu peux dire sur les gens d'Avignon, sur ces spectacles-là?
Avignon, c'est une expérience que je connais bien, d'abord parce que je viens d'Avignon, j'habite Avignon, puis ça fait depuis 20 ans que je fais le festival, sauf l'année de 2003 où je me suis mis volontairement en grève, parce que c'est important de se battre pour un statut, c'est important de se battre pour un métier, c'est surtout important de se battre aussi pour des conditions de vie. Et d'ailleurs, ça n'a pas été suivi, parce que je pense pas que les comédiens soit solidaire entre eux, hein. Mais ça c'est un autre problème, la solidarité entre comédiens, la solidarité toute court d'ailleurs. Mais Avignon, il y a deux choses. D'abord, c'est une immense foire artistique, au bon sens du terme et aussi au mauvais sens du terme. Quand on a une création, quand on a un spectacle à montrer, on loue une salle, souvent très chère, on la montre et les professionnels après font vivre le spectacle une année, deux années, 10 ans, et en tout cas on se fait connaître auprès d'un public. Alors après, c'est le bon côté des choses, c'est qu'on peut, si on a un spectacle, on peut le montrer. Bon, maintenant le mauvais côté des choses, à Avignon, c'est un rapport, moi je dis un rapport de camé dealer, c'est-à-dire que le dealer, c'est le mec qui a la salle, c'est le mec qui organise le Festival Off et qui dit, si tu veux jouer chez nous au Festival Off, trouve une salle, tu vas la louer 10-12 000 euros, si t'as un peu de bol, 4 000 euros, le créneau 4 000 euros l'heure, hein, j'entends bien, l'heure par jour, et puis après tu vas payer des affiches, des tracts, etc, et puis un appart pour pouvoir loger quand même sur Avignon, et seulement à ce moment là tu pourras montrer ton spectacle. Si on franchit cette barrière de fric, et si on a un spectacle qui peut fonctionner, après on est tranquille, on peut montrer son spectacle. C'est un loto Avignon, c'est une foire agricole. Je pense que c'est comme la foire de Paris. Il y a un mec qui a un très bon produit, s'il a un bon stand bien placé, il peut vivre et montrer sa création ou le produit qu'il vend. Après, s'il est au fond du couloir à droite, à 23h, c'est pas évident qu'il s'en sorte, même avec un très bon spectacle. Donc là, c'est vraiment une précarité. Le gros problème, c'est que c'est un immense business, Avignon. Et je pense que pas des gens comme Villard, parce que je pense pas que Villard, Gérard Philippe, Villard, étaient des gens qui savaient ce que c'était qu'une culture populaire. C'est pas vrai. Gérard Philippe étant fils de bourgeois, collaborateur, mais ça c'est un autre problème. Ses parents, c'était certainement pas lui. En fin de compte, c'est quand même des grands bourgeois. Je pense que des mecs comme Benedetto ou des gens qui, dans les années 68, installaient le Festival d'Avignon, les gens étaient assis sur des coussins et on faisait le spectacle, ça c'était le bon esprit. Maintenant, dès l'instant où on s'est dit, tiens, les mecs se sont dit, oh putain, il y a du fric à faire, on loue n'importe quel coin, on loue un garage, on appelle ça théâtre de mon cul, tu vas inventer un nom bidon à un théâtre, tu vas louer ça un maximum de thunes, et puis tu vas dire aux gens, mais si t'as un spectacle, c'est la seule manière dont tu as de montrer ton spectacle, donc douille d'abord et puis après vois. Donc c'est un petit peu un miroir aux alouettes, et puis des fois tu peux t'en sortir. Avignon, c'est comme un radio crochet en fin de compte. Il y a des gens qui essayent, d'autres qui tombent, et puis donc qui pleurent, qui vendent des apparts, qui se foutent dans la merde noire la plus complète, et puis d'autres qui ramassent un gros lot, quoi. C'est vraiment la précarité, et c'est surtout l'injustice, hein. C'est vraiment une injustice énorme. Néanmoins, enfin moi, il y a 20 ans, le festival, c'était très facile. Il y avait 300 spectacles par jour. Donc, on arrivait vraiment à être au-dessus. Si tu avais un spectacle qui sortait un petit peu de l'ordinaire, tu pouvais vraiment cartonner. Cette année, je regardais aujourd'hui, mardi 2 juin, je regardais, il y a 960 spectacles par jour sur le festival. Donc comment veux-tu, pour une jeune compagnie qui démarre, qui a relativement pas de thunes, veux-tu sortir de ces 960 spectacles? Qui plus est, maintenant, il y a les grosses stars de Paris qui viennent, avec la grosse cavalerie de maisons de production. C'est hyper difficile. Mais en même temps, on peut y croire. Il peut toujours y avoir des petits miracles. Et je pense vraiment que le public du festival, c'est un public souvent de, comme tous les publics d'ailleurs, mais c'est un public de gens qui sont encore plus à la recherche de qualité. Donc, ils vont pas hésiter. C'est des théâtreux, mais au bon sens du terme. Ce sont pas des gens qui se prennent la tête. Ce sont des gens, d'ailleurs, 60%, moi je m'en rends compte au niveau de mon public, des gens qui viennent de l'enseignement, des gens qui savent ce que c'est que la précarité. Et puis, je pense qu'il faut à nouveau aussi créer un nouveau système sur Avignon. Nous, on fait maintenant un paiement au chapeau. Et on a été la première compagnie sur Avignon à faire un paiement de 3 € pour les gens qui avaient le RMI, enfin maintenant RSA. On disait aux gens, ben voilà, vous avez ces 3 € la place. C'est sûr que c'était cher pour nous. C'est que là, le 3 € parce qu'on payait la salle très très cher. Mais en même temps, ça fait chier que l'argent soit une barrière à la culture. Et en même temps, faut responsabiliser les gens. Quelqu'un qui sait que le spectacle est gratos, c'est pas évident. Il sait qu'on est dans le même bateau. Donc, on lui dit, ben voilà, c'est 3 €, t'as la même place d'une personne qui payera 15 €, mais en tout cas, tu vois, ta place, tu la payes, parce que nous, ça nous aide, et du coup, la personne vient en disant, je suis responsable. Donc il va te respecter, parce qu'il a mis 3 €. 3 € pour un mec au RSA, c'est pas évident de les mettre. C'est pas évident, parce que 3 € c'est un beefsteak, c'est 3 tranches de jambon, et puis si t'as une famille à nourrir, 3 € c'est 3 €. Donc déjà, il va se responsabiliser, il va choisir, et puis s'il est content, il aura passé un très bon moment pour pas cher. Et là, d'un coup, il va se dire, mais peut-être que le théâtre... Et il va lui-même, du coup, chercher sur le festival d'autres spectacles qui aussi auront cette possibilité de se détendre, de se divertir, d'apprendre des trucs, etc., à un tarif moindre. Et je pense qu'il est là le sauvetage de ce métier, quand on veut se battre comme une machinerie, qui est un énorme festival in, ou des grosses cavaleries du off, comme la même cavalerie TF1, c'est que maintenant il faut faire une démarche contraire. C'est aux comédiens de se positionner dans un rôle civique et social, se dire qu'est-ce qui fait que le public va déserter une télévision de merde pour venir au spectacle vivant. Si le prix doit baisser, baissons le prix et on en parle ensemble. Et je crois que c'est le rôle du Festival d'Avignon.
J'ai beaucoup rigolé à ton spectacle. D'ailleurs, tu tapes un peu sur tout le monde. J'ai vu que tu tapais sur le Pôle emploi, tout ça. Est-ce que justement le fait d'avoir une scène pour s'exprimer devant un public, c'est aussi une possibilité pour toi de te faire le défenseur de tous ceux qui n'ont rien ou qui sont un peu justement des laissés pour compte, etc.
De toutes les manières, je pourrais pas faire un sketch ou un spectacle du type qui a perdu sa carte bleue d'un type qui viendrait faire ses courses puis qui a plus de batterie téléphone. Ça, j'en ai rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre, quoi. Ça me fait pas rire. Gad Elmaleh m'emmerde profondément, du boss qui me gonfle. Après, il y a un public pour ça, un public que je respecte complètement, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon business. Je pense que maintenant, le véritable rôle du bouffon, et je suis pas le seul sur scène à le faire, le rôle du bouffon, c'est de mettre sa tête, risquer sa tête, pour tenir des propos qui peuvent déranger, en tout cas des propos dénonciateurs d'une société qui se barre en couille. Voilà. Alors que ça soit Pôle emploi, que ça soit le RSA avec 600 €, avec la suppression de l'API, que ça soit de la pollution, que ça soit de la position d'Israël par rapport à la Palestine, que ça soit de la connerie du voile intégral, ou que ça soit aussi, peut-être même aussi, des sujets assez classiques du couple où la tendresse n'existe plus parce qu'il y a le quotidien qui vient et tu te roules pas la même gamelle du premier jour que tu as 2 ans de vie commune, quoi. Donc, après, moi, c'est des trucs qui me font peur. Moi, je ris de mes terreurs. Ma terreur, c'est quoi? C'est la mort, c'est l'exclusion, c'est de me retrouver tout seul dans la rue avec mes gosses. Ça, c'est mes terreurs. Plutôt que d'en chialer, j'essaye d'en rien. Après on trouve la solution, hein. Plutôt que d'en chialer, moi, je ne ris que de ce qui me fait peur. Je comprends pas les juifs, hein. Pourtant, je suis juif moi-même. D'ailleurs, on nous aime pas, hein. Je pense qu'on est jaloux, mais ça, c'est une question de jalousie, voilà. Je vois par exemple Anne Frank, elle a écrit un bouquin, Guy Moquet, il a fait qu'une lettre. Ça prouve bien quelque part, bon, on est un peu meilleur. Mais néanmoins, je pense que Shimon Peres, c'est une grosse merde. Quand on voit montre une photo d'une Palestinienne avec un enfant dans les bras de 3 ans qui a les tripes à l'air, il dit, oh, mais moi, je ne comprends pas, parce que les Palestiniens, on les accueille avec beaucoup d'humanité. Je crois que c'est la même saloperie que si Heinrich Himmler, devant les portes du camp d'entrée de d'Auschwitz en 1941 aurait dit « Oh ben nous, les Juifs, ici, on les accueille avec beaucoup de chaleur. » Le problème, il est là, quoi. L'exclusion, elle est là. Bon, les cathos, on se souvient de la phrase de Sarkozy. Sarkozy qui avait dit « On se souvient beaucoup plus de l'éducation reçue par un jeune prêtre, donnée par un jeune prêtre, que par un instituteur de province. » Bon, on s'en souvient beaucoup plus. Quelque part, Sarkozy, il n'a pas tort. Entre un instit de province qui dit « Tu sais, t'as vachement bien bossé cette année. Hein. Vraiment, je suis fier de toi. » Et puis un prêtre qui t'encule, au niveau du souvenir, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Parce que même après, 30 ans après, t'as des hémorroïdes. Honnêtement, ça te rappelle l'école.
Merci, Manuel. Pour voir Manuel Prat, c'est tous les lundis et mardis du 7 au 22 juin encore. Donc, voilà, c'est à 21h30 les lundis et mardis. Donc, c'est 3€ la place. Ce chapeau, ça se trouve au théâtre Le Funambule. Le Funambule Montmartre, donc c'est un théâtre de 100 places qui se trouve au 53 rue des Saules, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Lamarck-Caulaincourt.